Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'administration Trump met fin à la doctrine américaine établie en 78 qui considérait jusque-là que la colonisation israélienne en Cisjordanie était contraire au droit international. Ce n'est plus le cas, a-t-on appris hier soir. Une décision symbolique qu'analysera pour nous notre correspondant à Jérusalem.
Et puis nous nous pencherons ensuite sur les menaces chinoises. Elles sont de plus en plus pressantes alors qu'une centaine de manifestants est toujours encerclée par la police dans une université à Hong Kong.
Les maires se réunissent en congrès à Paris. Emmanuel Macron sera à leur côté cet après-midi. Pour quel accueil ? État des lieux à suivre.
Et puis nous vous expliquerons pourquoi l'Observatoire national de la pauvreté va fusionner avec une autre entité. Des chercheurs s'inquiètent.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs s'intéressera au rôle des émotions en politique. Les États-Unis font donc un nouveau pas vers Israël. Ils reconnaissent la légalité des colonies israéliennes implantées en Cisjordanie. Ou plutôt, l'administration Trump n'estime plus que ces colonies sont contraires au droit international. Le secrétaire d'État Mike Pompeo l'annonçait hier soir, revenant ainsi sur une politique américaine datant du 1978. S'ajoute à cela la reconnaissance récente, reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël, la reconnaissance également de la souveraineté de l'État hébreu sur le Golan syrien. Bonjour Frédéric Mettezo.
Oui, bonjour à tous.
Quelle réaction ce matin Frédéric, côté palestinien et israélien ?
Alors, une semaine après que l'Union européenne a confirmé l'étiquetage spécifique des biens produits dans les colonies, eh bien, les deux grands partis israéliens applaudissent les États-Unis. Benny Gantz, le leader centriste de Bleu Blanc, rival de Netanyahou et qui a jusqu'à demain soir pour composer une majorité, Gantz salue cette déclaration importante, preuve selon lui de l'engagement américain pour la sécurité de tout le Moyen-Orient. Le premier ministre israélien Netanyahou parle lui de déclaration historique.
Après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump et la reconnaissance de notre souveraineté sur le Golan, l'administration américaine met fin à ce mensonge qui disait que les implantations étaient illégales.
Washington valide tous les points litigieux de la politique israélienne depuis la guerre des six jours de 1967. Sans surprise, l'autorité palestinienne qui boycotte l'administration Trump qualifie, elle, la colonisation de crime de guerre. Elle regrette que les États-Unis préfèrent la loi de la jungle au droit international.
Alors Frédéric, cette déclaration américaine aura-t-elle, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, un impact sur le terrain et surtout dans la perspective d'un processus de paix ?
En réalité, non. Cette légalisation américaine ne change rien car Israël n'a jamais attendu l'autorisation de personne pour coloniser la Cisjordanie. Il y a déjà plus de 400 000 colons sur ce territoire. Le processus de paix est mort. Il n'y a plus de discussion entre Israéliens et Palestiniens. Avec les colonies, il y avait annexion de fait de la Cisjordanie. Aujourd'hui, les États-Unis lui donnent une légalité. Cette prise de position américaine confirme aussi que le plan Trump pour la paix qui se fait toujours attendre est d'abord un plan pro-israélien. Non, le véritable impact sera surtout à chercher dans l'opinion publique américaine. Est-ce que cela va ressouder les chrétiens évangéliques très sionistes derrière un Donald Trump visé par un impeachment ?
Merci Frédéric Mettezo depuis Jérusalem pour France Culture. Donald Trump qui est en effet bousculé outre-Atlantique. À la procédure de destitution s'ajoute ce mardi la sortie du livre d'un fonctionnaire anonyme de la Maison-Blanche. Livre à charge contre le président qui est décrit comme, je cite, « un enfant dans une tour de contrôle qui appuie sur tous les boutons ». Fin de citation. En bref, et en Israël encore, l'armée dit avoir intercepté ce matin 4 roquettes tirées depuis la Syrie. Un peu plus tôt, des témoins à Damas avaient entendu une forte explosion près de l'aéroport. À Hong Kong, autour du campus de l'université polytechnique, la tension est toujours forte actuellement. Cette nuit, des manifestants sont descendus en rappel depuis une passerelle pour fuir le campus assiégé par la police. Il serait une centaine encore coincés à l'intérieur. La police menace de tirer à balles réelles et pour éviter un bain de sang, la chef de l'exécutif Carrie Lam demande aux étudiants de se rendre. Eux craignent des représailles car le pouvoir chinois qui gère la mégalopole est de plus en plus inquiétant, Nathanaël Charbonnier.
Et celui qui donne le ton de la pensée chinoise s'appelle Liu Xiaoming. C'est tout simplement l'ambassadeur de Chine à Londres. Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime et ce n'est pas la première fois qu'il met en garde contre une possible intervention chinoise à Hong Kong. C'est ainsi qu'hier, lors d'une conférence de presse, il a rappelé que la Chine ne restera pas sans rien faire et qu'elle possède assez de détermination et de pouvoir pour mettre fin au soulèvement. Il a aussi justifié la présence de l'armée chinoise dans les rues de Hong Kong en précisant qu'elle était présente pour montrer la souveraineté chinoise, mais aussi pour défendre la ville. Des propos destinés aussi bien pour les étudiants hongkongais que pour la communauté internationale. Car l'ambassadeur a également précisé que le gouvernement chinois met en garde contre toute ingérence étrangère dans des affaires chinoises. Une façon de répondre aux Anglais, qui une nouvelle fois se sont inquiétés de la tournure des événements dans leur ancienne colonie. Une façon de répondre plus largement aux Européens, la Commission européenne ayant jugé inacceptables les violences à Hong Kong.
C'était Nathanaël Charbonnier. Il s'agit aussi de répondre aux États-Unis qui plaident pour des mesures claires en réponse aux demandes de l'opinion hongkongaise. En Iran, on apprend à l'instant que 3 agents des forces de l'ordre iraniennes ont été tués cette nuit à l'arme blanche par des émeutiers près de Téhéran. Les agences de presse ISNA et Fars communiquent à ce propos ce matin. Je vous rappelle que depuis vendredi, des manifestations ont lieu un peu partout dans le pays après l'annonce de la hausse des prix de l'essence en Iran. Il est 8h06 sur France Culture. Le 102e congrès des maires s'ouvre solennellement aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Plus de 5000 participants sont attendus pendant 3 jours sur le salon. Et pour l'ouvrir, cet après-midi, Emmanuel Macron prononcera un discours. Discours d'autant plus attendu que le président de la République n'y était pas l'année dernière, année de gilets jaunes, et que sa relation avec les édiles a été très compliquée dès le début du quinquennat. On note maintenant une légère amélioration, Stéphane Robert.
Entre Emmanuel Macron et les maires, ça va mieux depuis quelques mois, au dire même du premier vice-président de l'Association des maires de France, André Laignel.
Chacun d'entre nous reconnaît bien volontiers que le ton a évolué. L'ambiance s'est détendue, nous ne pouvons que nous en réjouir et nous ne boudons pas notre plaisir.
Et ça parce que les maires ainsi que le président de leur association, François Baroin, ont bien senti, à l'occasion du grand débat au printemps dernier, un regain de considération de la part du chef de l'État.
Oui, il y a un avant et un après gilet jaune, c'est incontestable. Le président de la République, il peut s'appuyer sur les maires. Et nous l'avons démontré au nom de l'intérêt général et dès que nous faisons d'une République apaisée.
Pour autant, il reste de nombreux sujets de désaccord. Les mêmes d'ailleurs que ceux qui avaient tendu les relations au début de quinquennat, en particulier la suppression de la taxe d'habitation. Pour le maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, Philippe Laurent, cette décision ne passe toujours pas.
Lorsque le président de la République dit on va supprimer pour une grande partie des contribuables la taxe d'habitation, mais les collectivités locales seront compensées. Bien sûr, il faut, mais ça ne suffit pas. L'impôt, ça n'est pas simplement une recette. L'impôt, c'est aussi la participation des citoyens au financement des charges communes. Et c'est donc un lien républicain et citoyen qui est extrêmement important et que nous voyons donc se dissoudre.
On a vu, disent tous ces maires, l'importance de la confiance dont bénéficient encore les élus locaux. Ils se qualifient eux-mêmes de dernier rempart de la République et ils entendent le rappeler à celui qui, pour encore un peu plus de 2 années, en est le président.
Emmanuel Macron, qui s'exprimait par ailleurs hier soir à propos des gilets jaunes, il a dénoncé le nihilisme de la violence après les incidents de samedi dernier à l'occasion de leur premier anniversaire. Le président a toutefois loué la fraternité sur les ronds-points qui a marqué le début du mouvement, a-t-il dit. Une 30aine de gendarmes seront présents aujourd'hui au nord de Toulouse, à Mirepoix-sur-Tarn. Ils enquêtent sur l'effondrement d'un pont, c'était hier matin au-dessus du Tarn. 2 personnes sont mortes, une adolescente de 15 ans et le chauffeur d'un poids lourd, trop lourd pour traverser le pont. Mais on ignore encore les raisons exactes de cet effondrement. Selon le conseil départemental de la Haute-Garonne, le pont inspecté en 2017 ne présentait pas de problème de structure. Le projet de loi de finances pour 2020 doit être voté en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte qui entérine notamment une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, ainsi que la disparition de la taxe d'habitation pour 80% des ménages à compter de l'automne 2020. Dans la balance, il fallait aussi faire des économies, mais force est de constater que le gouvernement a dû abandonner un certain nombre de pistes, Anne-Laure Jumet. On se souvient d'abord du recul sur l'exonération de charges accordée aux plus de 70 ans pour l'emploi à domicile. Le gouvernement avait envisagé de la supprimer. Il a dû finalement renoncer face au tollé provoqué par cette décision, y compris dans les rangs de la majorité. Autre revirement sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Dans la première version du texte, les ménages les plus aisés sortaient complètement du dispositif. À l'arrivée, ils pourront finalement en bénéficier pour de gros travaux. Le secteur du bâtiment avait tiré la sonnette d'alarme. Abandon aussi des baisses de crédit initialement envisagé pour les chambres d'agriculture. Et puis, face à la fronde des élus, l'exécutif a aussi dû reculer sur le gel des valeurs locatives servant à calculer la taxe d'habitation. Autant de décisions nécessaires selon Laurent Saint-Martin, le vice-président de la commission des finances de l'Assemblée.
C'est pas de la confrontation stérile au sens le gouvernement veut, la majorité ne veut pas, mais c'est plutôt des rappels plus adéquats à ce moment-là sur un secteur d'activité donné pour rééquilibrer un certain nombre de choses qui nous paraissaient pas tout à fait dans le bon tempo en termes de justice fiscale.
Et on parle là au total d'un demi-milliard d'euros d'économies en moins, une politique que dénonce le député LR du Val-de-Marne et spécialiste des finances publiques, Gilles Carrez.
Il y a un choix qui est très clair, c'est d'utiliser au maximum l'endettement, au prétexte que la dette se finance à des taux d'intérêt très faibles, voire négatifs. Notre pays est aujourd'hui endetté pratiquement à 100% de son PIB, donc c'est extrêmement préoccupant.
Et le gouvernement n'a d'ailleurs pas fini de recourir à la dépense publique, puisqu'on attend demain des mesures pour tenter de régler la crise dans les hôpitaux.
Et c'est pour faire des économies que le gouvernement supprime un certain nombre d'instances consultatives ces dernières semaines. L'Observatoire de la délinquance, l'Institut sur la sécurité et la justice et plus récemment l'Observatoire national de la pauvreté. Alors lui ne disparaît pas totalement, mais il se voit inséré dans une nouvelle organisation, Catherine Pétillon.
Le thermomètre n'est pas cassé, insiste l'exécutif, réponse directe aux associations et chercheurs qui avaient sonné l'alerte, craignant la disparition de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de son travail d'analyse des phénomènes. Finalement, l'ONPES se transforme, il est absorbé par le Conseil national de lutte contre les exclusions, dont il devient un comité scientifique. Le président de l'actuel ONPES, Jérôme Vignon, a lui obtenu de haute lutte le maintien des deux postes dont il dispose et se veut rassurant sur l'indépendance des chercheurs.
La capacité à impulser des recherches demeurera. Il y aura un budget de recherche, il y aura un nombre conséquent de chercheurs au sein de ce comité. Ce qui change, ça sera sans doute le fait que le programme de travail de ce comité scientifique va s'inscrire dans les priorités du CNLE, alors qu'à ce stade, l'ONPES est complètement indépendant de son programme de travail.
Une nuance qui pourrait avoir des effets majeurs selon la manière dont elle sera mise en œuvre. Chercheurs et associations déplorent encore la fin des travaux d'ensemble sur les questions de pauvreté et s'interrogent sur le choix et la hiérarchisation des questions traitées à l'avenir. Autrement dit, ce qui sera regardé et débattu. Florent Guéguin, président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Le risque, il est la mise sous tutelle des lieux d'observation indépendants tels qu'ils existent aujourd'hui. Dans un contexte où on a assez peu d'outils d'analyse, hein. Par exemple, on ne sait pas en France combien il y a de personnes sans domicile fixe, parce qu'on n'a pas de grande enquête nationale depuis 2012.
Les associations réclament des garanties d'indépendance du futur Conseil national de lutte contre les exclusions, dont le nouveau président doit être nommé dans les prochaines semaines.
Michaël Zemmour, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 1, invité des matins de France Culture ce mardi. Vous avez travaillé sur la pauvreté des jeunes pour l'Observatoire. L'indépendance de ce type de structure est-elle indispensable selon vous pour le travail des chercheurs ?
L'indépendance est indispensable pour créer ses propres questions, ses propres sujets d'analyse. Et puis aussi, il y a la question des financements en recherche qui est très importante. Quand un observatoire comme ça disparaît ou est absorbé, le diable est dans les détails. Donc je comprends les inquiétudes.
Merci beaucoup Michaël Zemmour. On vous retrouve dans quelques minutes pour poursuivre le débat à propos des retraites ce matin sur France Culture. La ministre de l'Enseignement supérieur annonce la fin de la trêve hivernale pour les cités universitaires. Frédéric Vidal le dit à l'instant chez nos confrères de RTL après plusieurs jours de mobilisation chez les étudiants contre la précarité étudiante justement. Elles, car ce sont souvent des femmes, elles se mobilisent aujourd'hui, mardi. Les assistantes maternelles protestent contre la récente obligation de se référencer sur Internet pour pouvoir ensuite travailler. À moins de 5 ans des Jeux Olympiques organisés à Paris, la ville de Paris n'apprécie guère un choix du CIO, le Comité International Olympique, elle l'a dit hier. Le CIO vient en fait de nouer un partenariat pour quelques centaines de millions d'euros avec la plateforme de location Airbnb, Pierre Neveu.
Il lui permet ainsi d'entrer dans le cercle très fermé des sponsors officiels de l'olympisme. Et ce, quoi qu'en disent et quoi qu'en pensent les villes hôtes de ces Jeux, Tokyo 2020, Paris 2024 ou encore Los Angeles 2028. Autant dire que la pilule est amère pour l'équipe municipale qui depuis des années dénonce les pratiques d'Airbnb, responsable à ses yeux de la hausse des loyers, de la pénurie de logements locatifs, du manque à gagner pour les professionnels de l'hôtellerie, sans oublier des nuisances pour le voisinage. Adjoint au logement, l'élu communiste Yann Brossat dénonce le choix irresponsable du CIO, quand Jean-François Martins, adjoint au tourisme et au sport, en charge du dossier Paris 2024, précise « le sujet n'est pas le CIO, mais Airbnb ».
La maire de Paris n'est pas dans une relation d'adversité ou d'hostilité à l'égard du CIO. Le CIO signe les partenaires qu'il veut. Nous, notre hostilité, elle est à l'égard de Airbnb, une entreprise qui, aujourd'hui, ne respecte pas la loi en France et ne fait aucun effort pour préserver le logement des Parisiens. Nous attendons des sponsors des Jeux Olympiques qu'ils se conforment à la réglementation et à la loi des villes qui organisent les Jeux Olympiques. Et de ce point de vue, Airbnb va devoir se conformer à la loi qu'il a trop rapidement et trop facilement l'habitude d'enfreindre à Paris.
Anne Hidalgo, qui n'est pas encore officiellement entrée en campagne pour sa réélection, affiche toute sa détermination pour encadrer, voire interdire, les pratiques d'Airbnb. Elle a déjà pu montrer toute sa ténacité en juin dernier en décidant de repousser l'offre du pétrolier Total au COJO, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024.
Nous avions longuement évoqué ici même la nouvelle accusation de viol à l'encontre du réalisateur Roman Polanski, dont le dernier film sortait en salle la semaine dernière. Eh bien, l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, propose de suspendre Roman Polanski. Il y aura exclusion en cas de condamnation, précisait-elle hier soir. Il n'y aura quasiment pas de pluie ce mardi sur la France métropolitaine. Le temps s'annonce nuageux, plutôt sec, sauf sur l'extrême sud-est. Sec donc et froid, avec 4 degrés ce matin à Nantes, Lille et Strasbourg, 5 à Paris et Bordeaux, 6 degrés à Lyon et 13 degrés dans la matinée à Nice.